Oui, comme l'a dit André, la parole de Dieu est vivante. Et si vous retenez ça, vous n'avez pas besoin d'écouter les 20 prochaines minutes. Le thème de ce matin, je ne vais pas vous surprendre, je vais vous parler de la Bible. Alors cela paraît évident, on est dans une église, et j'en suis heureux que ce soit une évidence. Le conseil pastoral se dit, c'est bon, c'est super, on n'aura pas grand-chose à rattraper derrière. Le groupe employeur se dit, ben, c'est dans son cahier des charges normal. Mais peut-être certains d'entre vous, vous vous dites, ben, on le fait chaque dimanche. Chaque dimanche, on partage la parole de Dieu. S'il vient nous parler de la Bible, ce matin, c'est qu'il n'y aura rien d'exceptionnel. J'espère effectivement qu'il n'y aura rien d'exceptionnel à ce que je vous dis ce matin. J'aime prêcher sur la Bible, vous l'avez peut-être remarqué. Mais ce matin, il s'agit pour nous, pas de parler sur la Bible, mais de parler de la Bible. Permettez-moi déjà de vous expliquer pourquoi je fais ce choix. J'ai la mauvaise impression, et ça commence mal, j'ai la mauvaise impression que la Bible est parfois malmenée. Deux éléments me font venir à cette conclusion-là. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de regarder un bout des trois volets du documentaire diffusé sur Arte, qui a pour titre « Les évangéliques à la conquête du monde ». Ouais, peut-être certains d'entre vous, qui les a vus ? D'accord, qui en a entendu parler ? D'accord, ouais, quand même pas mal de monde. Hein. Ils ont fait couler beaucoup d'encre hein, dans le milieu évangélique. Ce documentaire, je ne vais pas parler de tout mon temps de parole sur ce documentaire, mais il me semble bien de vous dire que ce documentaire apporte un regard très intéressant sur certaines dérives de certains milieux évangéliques, pas tous. Mais il faut aussi que je vous dise, je n'adhère pas à toutes les conclusions de ce reportage. Et voilà, ce message est enregistré, tant pis, mais... J'ose croire que Philippe Gonzalez, qui est l'auteur de ce reportage, n'a pas un avis tout à fait objectif sur le milieu évangélique. Il me semblait peut-être bien de vous le dire aussi, c'est mon avis, on peut en discuter, mais il me semblait bien de le dire aussi. Voilà aussi peut-être pourquoi ce documentaire a fait couler beaucoup d'encre. Donc, ce documentaire partage, questionne, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce qui m'a marqué dans ce documentaire, finalement, c'est que l'enjeu principal derrière, c'est la place de la Bible. Et ce documentaire a bien un mérite, celle de nous interroger sur notre identité d'évangélique et finalement de notre rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible pour nous ? Et le deuxième élément qui me motive à vous parler de la Bible ce matin est un élément peut-être plus proche de nous. C'est que la Bible véhicule plein de bonnes valeurs. Pour beaucoup, Christ était un philosophe hors pair. J'ai eu l'occasion d'entendre un débat entre le théologien Henri Blocher et le philosophe Luc Ferry. Luc Ferry est athée convaincu. Il ne s'en cache pas. Et puis, on a posé la question à Luc Ferry, mais si vous étiez seul sur une île déserte, quel livre prendriez-vous avec ? Et Luc Ferry a dit, je prendrais l'évangile de Jean, parce que c'est un génie littéraire et c'est une bonne morale. Telles sont les paroles d'un athée. Hein ? Donc pour beaucoup, Christ était un philosophe. Mais sa parole, mais la Bible n'est plus forcément partout la parole de Dieu. Elle ne l'est plus forcément parce qu'elle dérange. Elle dérange car elle va en opposition avec les valeurs que notre société donne actuellement. La tendance est de prendre dans la Bible ce qu'il nous fait du bien. Alors tout le monde sera d'accord de parler de l'amour, de la tolérance. Peut-être un peu moins du péché, de la colère de Dieu, etc. Et dans notre monde, il y a des réelles questions qui se posent. Et souvent, peut-être la tendance qu'on peut avoir à prendre, c'est de dire, mais en fait, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit notre monde? Et puis on essaie de trouver cette voie médiane entre les deux, en essayant de faire le moins de compromis possible. Et finalement, après, on arrive à la conclusion de se dire, mais finalement, ce n'est pas la Bible qui compte, mais c'est les valeurs qu'il y a derrière la Bible qui comptent. Voilà deux éléments qui paraissent différents, mais qui ont pour vocation de nous interroger sur notre rapport à la parole de Dieu. Et je crois personnellement que notre monde évangélique francophone devra tôt ou tard se positionner de manière claire sur le statut de la parole de Dieu. Je crois que c'est un des prochains enjeux, s'il n'est pas déjà là, pour nos milieux évangéliques. Alors ce matin, je vous invite à nous mettre à l'écoute de l'apôtre Paul. Et je vous invite à lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée pour trouver des éléments de réponse sur ce statut de la parole de Dieu. De Timothée, je vais lire au chapitre 3, verset 14, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Telles sont les paroles de Paul à Timothée. Cette lettre est probablement une des dernières de l'apôtre Paul. Paul se sent seul, il est en prison, et il voit probablement sa mort approcher. C'est peut-être pour cette raison qu'il demande à Timothée de le rejoindre. Mais Paul est ici lucide. Il voit l'hérésie, il voit l'erreur se répandre dans l'église d'Éphèse. De prétendus enseignants corrompent le message de l'Évangile et cherchent à tromper les chrétiens en diffusant une théologie confuse. Je n'ai pas l'impression que la situation en Suisse romande aujourd'hui est très différente de celle d'Éphèse il y a 2000 ans. Le message de l'Évangile est souvent banni, mis de côté. S'il n'est pas modifié pour être rendu plus acceptable. Dans cette lettre, c'est le moment pour Paul d'encourager Timothée dans son ministère au service de la parole. Et c'est intéressant de voir que Paul ne recourt pas à toutes sortes d'outils que nous avons aujourd'hui, comme la pensée positive ou à une adaptation du message biblique. Paul a bien cerné l'enjeu qui se jouait pour Timothée et pour l'Église, celui du statut de la parole de Dieu. Et l'enjeu est sérieux. Et parce qu'il est sérieux, Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les versets que nous avons lus commencent fort. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. » Et quelques lignes plus loin, nous apprenons que ce que Timothée a appris, c'est effectivement les Saintes Écritures. Et ces écritures, nous dit Paul, peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Devant ces enjeux-là, Paul réaffirme d'emblée le but de la parole de Dieu. Les Écritures ne sont pas seulement destinées à augmenter notre connaissance. Ici, Paul nous parle du pouvoir des Écritures. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur cette notion de pouvoir. Ça peut questionner. J'aimerais y amener un petit peu de clarté. J'aimerais soulever deux points. Premièrement, les Écritures ne sont pas magiques. Ce n'est pas un pouvoir magique. Mais elles ont le pouvoir d'orienter son lecteur vers le salut en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas la lecture de la Bible qui sauve. C'est Jésus, c'est la foi en Christ. Mais l'Écriture, la Bible, est le chemin par excellence qui nous mène au salut. C'est la voie que Dieu a choisie pour nous révéler son plan pour sauver l'humanité. Deuxièmement, le pouvoir de la Bible, ce n'est pas dans la qualité du papier, ni dans le génie littéraire des auteurs humains. Le pouvoir de l'écriture de la Bible vient de ce qu'elle est inspirée par Dieu. Oui, la Bible est inspirée par Dieu. Le théologien Benjamin Warfield développe l'idée même de spiration. Alors, c'est un terme technique et barbare, comme beaucoup de termes en théologie. Mais derrière ces termes barbares, il y a quelque chose de profond. La spiration veut dire que la Bible est produite par le souffle de Dieu. Dieu souffle sa parole, il s'y engage complètement. Il ne donne pas une idée ici ou là. Le souffle de Dieu a soufflé sur les auteurs humains de la Bible pour que ce qu'ils ont écrit soit pleinement parole de Dieu. Alors, si les Écritures sont inspirées par Dieu, qu'est-ce que ça implique? À nouveau, je donne deux éléments. D'abord, c'est qu'elles sont vraies. Il n'y a aucune erreur en elles. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. Et si la Bible comportait des erreurs, Dieu ne serait simplement pas Dieu. Alors là, certains me diront peut-être, oui, mais bon, d'accord, la Bible, elle n'est pas toujours claire. Alors ça, je suis d'accord, la Bible n'est pas toujours claire. Dieu ne sait plus à transmettre sa parole à des auteurs humains. Ces auteurs n'ont pas fait d'erreur, mais ils ont écrit selon les conventions de l'époque, selon le style littéraire et les codes culturels de leur époque. Et l'enjeu pour le théologien, c'est de décrypter ces codes et le style de ces auteurs pour les rendre plus clairs à nous, lecteurs du XXIe siècle, sans en modifier le propos si possible. C'est un travail de contextualisation, mais pas d'adaptation. On ne doit pas rendre la Bible au goût du jour. La deuxième conséquence, c'est que si la Bible est inspirée par Dieu, c'est qu'elle enseigne un message plein de bonté et d'amour, le message du salut. La Bible déclare que Dieu est bon et qu'il est amour. Il n'y a aucune raison que son message soit différent. Pour Paul, c'était essentiel de réaffirmer le statut de l'Écriture pour Timothée. La Bible est inspirée par Dieu. Et après, il va lui donner une série de recommandations. Il s'agit plutôt de 9 impératifs que Paul donne à Timothée. 5 versets, 9 impératifs. Paul veut s'assurer que son message a bien été compris. Timothée est invité à prêcher la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Oui, la prédication de la parole est importante. même quand les conditions ne sont pas favorables. Et je dirais peut-être surtout quand les conditions ne sont pas favorables. Et dans ces conditions peu favorables, Paul prend soin de donner le contexte. La saine doctrine ne sera plus supportée et les gens voudront entendre des choses agréables. Ces gens-là ne rejetteront pas un livre. Luc Ferry est prêt à prendre l'évangile de Jean avec lui. Mais ils rejetteront la parole de Dieu. Ils rejetteront ce que Dieu désire leur dire. Et quand je lis ces versets, je me dis, on est en plein dedans. Le message de la Bible n'est plus reçu comme parole de Dieu. Alors on pourrait être tenté de rendre ce message de la Bible un peu plus cohérent avec les aspirations du monde. Trouver cette voie médiane. Si on fait un compromis ou deux, c'est pas trop grave tant que ça passe. Mais Paul nous rappelle l'importance de diffuser la parole de Dieu. Et il ne cache pas que la persécution peut faire partie du jeu. Et derrière ces instructions de prêcher la parole, Paul va encore plus loin au verset 5. « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Ce verset ne dit pas simplement à Timothée de dire « prêche la parole », il lui dit aussi « aie la bonne attitude », l'attitude qu'il faut avoir dans la communication de l'Évangile. Ce n'est pas un légalisme rigoureux que Paul exige de Timothée. Mais la parole doit être prêchée avec un certain cadre, et certainement en opposition avec ces hommes du verset 4, de ces hommes qui détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Oui, l'œuvre d'un évangéliste est opposée à toutes ces fables et toutes ces spéculations. Et la sobriété permettra à Timothée de rester focalisé sur sa tâche et le ministère de la parole. Quand j'écrivais ces notes pour ce matin, j'étais arrivé justement à ce point-là, puis je réalise que j'ai oublié un verset. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retravaille toutes mes notes? Puis j'ai eu la flemme, donc je vous le commente après coup. Mais je le commente quand même. Et il a tout son sens d'être placé ici. J'ai fait une erreur. L'erreur, c'est que je suis parti dans ma lignée. Je me suis dit, on va parler de la parole de Dieu. Voilà, la parole est inspirée. Et ensuite, je suis parti directement sur ce que Paul donnait à Timothée comme consigne. Alors, l'ensemble paraît cohérent, c'est bien. Mais je n'ai pas tenu compte des quelques mots au verset 1 du chapitre 4. Et ces quelques mots apportent pour moi un éclairage essentiel. Où Paul dit, je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. J'avais oublié cette mention de Jésus, c'était superflu pour moi. Je me concentrais sur les impératifs. Mais finalement, si j'en parle, c'est que Jésus est bien le juge ultime. C'est sur lui que repose cette mission. C'est lui le moteur de cette mission d'annoncer la parole. Et Paul prend le soin de donner en quelques mots le rôle de Jésus. Jésus qui doit venir juger les vivants et les morts. Jésus le juge ultime. Et c'est bien parce qu'il reviendra. Et il établira son règne glorieux. Finalement, c'est parce que Jésus reviendra que Paul transmet ses instructions à Timothée. Ça donne la consistance à ses instructions. Paul ne demande pas à Timothée de suivre un fanatisme quelconque. Il lui signifie que la proclamation de la parole sert le but de l'établissement du règne de Christ. Il ne fallait donc pas oublier cette mention-là. On peut aussi en tirer des leçons pour nous. La proclamation de la parole est intimement liée au retour de Christ. Il y a donc un enjeu particulier sur la place de la Bible, un enjeu qui peut être sous-estimé. Et j'ose croire que notre ennemi, que Satan, ne sous-estime pas cet enjeu. Il l'a bien compris. Je l'ai dit avant, ce que la Bible dit, Dieu le dit. Et Satan ne va pas se gêner de venir mettre cette parole en doute. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé dans le livre de la Genèse. Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger du fruit ? Cette épître de Paul à Timothée nous affirme tout à nouveau que la Bible est la parole de Dieu. Il nous dit que la Bible est le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle. Et de relire cette épître à Timothée a pour but de nous encourager ce matin, de nous encourager à nous positionner, de prendre position. Quel est le statut de la Bible pour moi ? Quel est le statut de la Bible pour notre Église ? Comme je l'ai dit en introduction, c'est à mon avis là que seront les prochains enjeux pour le christianisme dans le monde francophone. Alors, ne cédons pas à la facilité, mais comme Paul le dit à Timothée, tenons ferme jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que notre Seigneur nous dit en Matthieu 24, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Amen. Et je vous invite à la prière.